Ondes universitaires à l'écoute des futurs, avec Yasmine Edia.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis avec les membres de l'association MET. On monte une exposition temporaire et ils sont là pour nous parler de l'exposition qui a eu lieu du 11 novembre au 2 décembre à l'UTC. Bienvenue Maxime, Elisa et Emmanuel. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous avez décidé de faire partie de l'association ?
Moi c'est Elisa, je suis actuellement en RESPE comme du MET. Et pourquoi j'ai voulu faire cet asso, c'est parce que j'adore l'art. Depuis petite, je pense que je suis passionnée par toute forme d'art. Et je trouvais ça vraiment sympa de monter des expositions temporaires, d'essayer de faire découvrir à l'UTC l'art, parce qu'on est quand même une école d'ingénieurs, plus axée scientifique. Et je pense que l'art et la science, ça peut nous apporter pas mal.
Ok, et du coup, moi c'est Maxime, je suis co-responsable médiation avec Manuel qui se présentera juste après. Je pense qu'Elisa a pas mal décrit les raisons pour lesquelles on a un peu tous rejoint l'asso. Il y avait aussi, moi, une volonté de faire une asso événementielle, de monter un projet avec une belle équipe comme celle du MET. Et donc, de créer et de manager une équipe aussi, c'était un objectif. Moi, c'est la première asso que je fais depuis que je suis arrivé à l'UTC. Et donc, j'avais vraiment cette volonté de m'inscrire dans une dynamique événementielle.
Alors, du coup, moi, je suis Manuel, puis je suis co-responsable de la médiation. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit. J'ai bien aimé aussi le fait de créer un projet depuis zéro, vu que MET, c'est une nouvelle association. Et puis, pour les mêmes raisons, j'ai rejoint l'asso, je pense.
Et est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général de l'exposition et de ses thèmes principaux ?
Oui, on a commencé à travailler vraiment sur l'expo, c'était mi-juillet. Pas mal des gens de l'équipe ont rejoint début août, donc on a fait déjà un bel appel à candidature, on a eu une quarantaine de réponses. Et à partir de là, il y a deux teams, du coup la team médiation, avec Manuel on en fait partie, et la team artiste, du coup on a sélectionné pas mal d'artistes en fonction d'univers qui étaient cohérents entre eux. Et après on a monté tout le thème de l'expo, donc on s'est axé sur le thème qui s'appelle « Vivant avec un S ». Donc le but, c'est d'avoir un travail un peu réflexif pour le spectateur, pour le visiteur, qui réfléchisse à qu'est-ce qui lui le rend vivant quand il regarde ses œuvres. Et donc vraiment explorer tous les univers des artistes comme des éléments de réponse à cette question-là. Donc vivant avec un S, comment on se sent vivant, comment on se voit vivant demain aussi. Ça fait écho avec les 50 ans de l'UTC aussi qui ont eu lieu récemment. Et donc le but, c'était d'apporter une espèce de réflexion pour le spectateur et de l'impliquer à fond dans l'expo.
On avait divisé l'exposition en quatre salles, parce que même si la salle n'était pas très grande, on a quand même réussi à créer quatre environnements différents où on a pu répartir les artistes un petit peu. On en avait la première qui s'appelait Observatoire, où c'était plus comment est-ce que les artistes contemplent le vivant, comment est-ce qu'ils le représentent, comment est-ce qu'ils le voient. On en avait trois. Ensuite, il y avait la salle témoignage, pardon. Où c'était plus comment est-ce qu'on voit le vivant en société, avec plus de questions sociétales du coup, le rapport avec la tradition, la culture en général, plus de représentation de l'humain de manière générale. Ensuite, troisième salle, c'était ressenti, donc c'était plus comment est-ce qu'on voit l'émotion du vivant, comment est-ce que c'est représenté. Donc on avait d'un côté plus passage par l'expérience et d'autre vraiment l'émotion personnelle. Et enfin, dernière salle, ça s'appelait mêlée. Donc là, c'était plus un foisonnement d'idées. On avait beaucoup d'artistes différents, de plus particuliers, on va dire, mais qui étaient aussi marquants et qui avaient beaucoup de volonté. C'était...
Ouais, et qui laissaient aussi transparaître de leur engagement à travers leurs œuvres, que ce soit sur des sujets environnementaux, sociétaux, etc. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus personnel, où ils s'étaient vraiment engagés dans leur démarche artistique pour dénoncer ou montrer ce qu'ils voulaient bien nous montrer.
Et si j'ai bien compris, tous les artistes sont des étudiants de l'UTC ou au moins issus de l'UTC ?
Oui, c'est ça. Donc on a eu des étudiants de l'UTC, des professeurs de l'UTC et aussi des alumni, donc des anciens de l'UTC qui sont revenus, qui ont fait leurs œuvres.
Et est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément d'une ou deux œuvres en particulier ?
Moi, ce que j'ai adoré, c'est les œuvres de Paul Boinet. Parce qu'en fait, il a fait deux œuvres qui sont déjà gigantesques. Donc quand on arrive, on est ébloui. Et en fait, pendant tout le processus de sélection, je suivais de loin. Et déjà, j'adorais, j'étais là, waouh, ces photos, elles sont incroyables. Et le jour J, je suis arrivée devant ses œuvres et je me suis rendu compte que ce n'était pas des photos, mais des dessins. Et je crois que j'ai été scotchée ce jour-là, mais je ne me suis jamais remise.
Voilà, donc en fait, Paul, il a réalisé par exemple, la plus marquante s'appelle Sylvain, donc, qui a été réalisée en pastel gras. C'est un portrait d'un sans-abri qu'il avait rencontré à Compiègne. Et donc en fait, il avait eu un rapport amical avec lui lié autour de l'art, où justement, ils ont tous les deux partagé leurs passions respectives. Et il y a même une relation vraiment fusionnelle entre les deux, où Paul a offert de la peinture à Sylvain, etc. Et en fait, Paul, il aime bien marquer ses expériences sur ses œuvres, pour ne jamais les oublier, en fait. Et c'est pour ça qu'on retrouve cet immense portrait de Sylvain qui, dès l'entrée donc de la troisième salle ressentie, souvent marque le visiteur. Et on a beaucoup de bons retours sur celle-ci.
Puis je pense, du coup, dans ce genre-là, dans le genre waouh, on peut aussi parler de Valérie Moreau, qui était une ancienne enseignante chercheuse de l'UTC, qui a enseigné jusqu'en 2003, qui, elle, fait des sculptures. Donc c'est quelque chose qui vient un peu casser les codes, parce qu'on était pour l'instant très exposé sur les murs avec des peintures, des tableaux, etc. Et là, du coup, on se retrouve avec deux grandes sculptures qui traduisent un engagement environnemental qui est hyper fort, parce qu'en fonction de d'où on se place pour regarder la sculpture, on a soit un aspect très minéral et végétal, soit un aspect humain avec des visages qui sont représentés. Et donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a creusé les têtes des humains pour représenter soit des oiseaux, soit des arbres, mais donc lier l'homme à la nature. Du coup, c'était hyper intéressant. Il y a eu un vrai effet waouh. En plus, elle avait une de ces deux sculptures qui pouvait tourner. Donc, c'était hyper interactif, c'était hyper intéressant pour les gens.
Comme vous l'avez rappelé au début, il y a un thème commun à toutes ces œuvres, mais est-ce qu'il y a aussi des techniques artistiques spécifiques ?
Donc, on a eu pas mal d'œuvres dessinées, de photos. Et dans les œuvres qui changent, donc déjà, il y a les sculptures de Valem, mais aussi les broderies de Christine Balmer. C'est une broderie alsacienne, ça change vraiment beaucoup dans l'expo, des photos, des dessins. Et après,
On a eu plein de techniques différentes de manière générale. Donc, comme tu l'as dit, pas mal de photographies. On a eu de l'aquarelle, du pastel, de l'encre, du dessin de manière générale. Même sur les supports, c'était différent. On avait soit des grandes peintures, des grandes toiles, ou alors des petits carnets, des petits dessins de coins de cahier, on va dire. Et donc, je trouvais que c'était une bonne relation qu'on avait avec les UTCiens, où justement, on se sentait plus représenté en tant qu'étudiant plutôt comme artiste, de manière générale. Et donc, c'était intéressant, je pense, de tout représenter.
Il y a une particularité, on n'en a pas parlé, mais l'exposition se fait dans le noir, dans un premier temps.
Ah oui, ça, c'était pour le vernissage. Donc en fait, pour le vernissage, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris à peu près une trentaine de minutes. Donc les 15 premières minutes, les gens regardaient dans le noir avec la lumière de leur téléphone. Et donc on étudiait les œuvres, on les voyait sous un autre aspect, on pouvait voir des détails. Et après, on allumait les lumières et donc on voyait les œuvres dans leur ensemble et on pouvait à nouveau les admirer.
Et pourquoi vous avez décidé de faire comme ça ? C'était l'idée des artistes, c'était une bonne idée.
Du coup, on a eu des petits problèmes sur la lumière, mais en fait, ça s'est super bien goupillé parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le téléphone permettait vachement de concentrer l'attention de quelqu'un. Finalement, on regarde que là où il y a de la lumière. Et donc, en fait, on prête une attention aux détails qui est bien plus importante. C'est surtout que nous, on était aussi là pour faire des visites guidées. Donc, en fait, on présentait les salles, on présentait quelques artistes aussi dans la salle. Mais finalement, il y avait une exploration à chaque fois qui était super libre. Et les gens avaient vraiment le sentiment d'être plongés dans l'œuvre. Et du coup, il y avait une vraie connexion qui se créait entre les univers des artistes et les visiteurs. Donc on a eu vachement de bons retours. Mais effectivement, ça s'est décidé un peu...
Au dernier moment.
C'était une idée un peu qui a surgi comme ça. Mais finalement, on l'a gardée pour les autres vernissages ou les autres moments où on pouvait faire l'exposition dans le soir. Parce que malheureusement, l'exposition, on ne pouvait que l'ouvrir en semaine jusqu'à 17h. Donc malheureusement, il ne faisait pas encore nuit à cette heure-là.
Donc effectivement, après, on a une deuxième période où on a eu des lumières un peu plus professionnelles qui étaient bien placées au niveau des œuvres, etc. Et donc ça ouvrait vraiment une deuxième approche qui était là beaucoup plus contemplative, parce que du coup, on n'était plus dans le noir, mais on était en pleine lumière. Et donc ça permettait de mieux se placer aussi par rapport à l'œuvre et de voir le showroom dans un sens beaucoup plus global, de dresser le portrait au final. Beaucoup plus général de l'expo.
Et quels étaient les messages que cherchaient à transmettre les artistes à travers leurs œuvres ?
Je pense qu'il y a un grand engagement, surtout vis-à-vis des sciences et de l'art, de montrer que l'UTC1, finalement, c'est pas juste un scientifique qui fait des maths et de la physique, mais c'est aussi quelqu'un qui va, à travers sa recherche artistique, essayer de chercher une émotion qu'il a à l'intérieur de lui. Il y a notamment Claire Haché, donc, qui a fait les aquarelles, qui était la toute première personne à être exposée sur le mur, donc à droite, quand on rentrait dans le showroom, qui, elle, représente son monde intérieur. Donc, c'est des aquarelles avec des couleurs qui sont très chaudes, très, très harmonieuses, et qui, en fait, nous invitent à une réflexion sur aussi, nous, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, et pas juste ce qu'on peut donner au monde, etc.
Ouais, je pense qu'on a eu laissé quand même une grande marge de créativité et d'expression aux artistes, tant qu'ils collaient un petit peu au thème, on va dire. Donc on retrouve plein de messages différents, donc ça a été un plaisir de les découvrir et de discuter avec eux. Je peux par exemple citer Laïs, qui est dans l'association aussi, qui, elle, représentait des femmes noires qui étaient souvent sous-représentées dans les expositions qu'elle avait pu visiter quand elle était plus jeune. Il y avait Adrien Charana Conrad, qui représentait l'opposition entre la disparition culturelle et la disparition environnementale, on va dire. C'est ça. Et donc, il mettait en valeur, par exemple, un animal en voie de disparition et dessus une langue en voie de disparition aussi. Donc, une tortue, par exemple, qui venait de Madagascar avec un dialecte malgache représenté partout, qui lui aussi était en voie de disparition. Donc, c'était ces liens-là qui étaient intéressants et de voir tous ces artistes UTC1 exprimer tellement de choses différentes. Je pense que ça a été... une superbe réussite là-dessus.
Ouais, c'est une belle réussite, surtout qu'au niveau de la scène, nous, ça a aussi beaucoup été réfléchi en contraste, notamment dans la deuxième salle, où en fait on a deux photographes qui sont à l'opposé dans la salle. Et donc on a une partie très urbaine avec Chloé Gomard. Et juste en face, il y a une partie où on a pris des photos dans un parc, donc c'est les photos de Fabien. Et donc il y a beaucoup d'échos qui se font aussi de jeux de réflexion. Parce que Chloé montrait des personnages assez seuls dans l'univers de la ville, alors que ça concentre beaucoup d'humains. Alors que Fabien, justement, prenait le parti de montrer la connexion qu'il y avait entre les gens dans le parc, qui est en pleine nature.
Et est-ce qu'il y a des œuvres qui ont été faites spécialement pour l'événement ?
Alors, ouais, on avait quatre artistes qu'on appelait en production, on va dire. Quasiment un dans chaque salle, presque. On avait Christine qui avait réalisé les broderies. Qui, elle, au début, nous avait montré qu'est-ce qu'elle était capable de faire. Donc on a essayé de la guider un peu sur comment vraiment créer une œuvre artistique à part entière, avec une vraie volonté derrière, artistique. Et je pense que ça s'est plutôt bien goupillé. On a réussi à lui faire un QR code avec des choses représentées dessus. On avait également...
C'est un QR code qui est brodé ?
Qui est brodé et qui était scannable. Donc justement, c'était en lien avec une autre artiste en production qui s'appelle Louise Gottlieb, qui, elle, a réalisé de la photographie, donc plein d'œuvres avec plein de mises en scène différentes. Je crois qu'elle a pris vraiment beaucoup de plaisir à réaliser ses œuvres. Elle nous a envoyé un tas et un tas de choses. Donc on a été vraiment contents de tout recevoir et d'essayer de la guider un petit peu sur comment est-ce que nous, on voyait cette vision-là qu'elle avait, etc. Et je pense qu'elle a pris vraiment beaucoup de plaisir. Et donc, justement, elle a réalisé également une animation en lien avec les broderies de Christine Balmer. Donc du coup, quand on scannait le QR code brodé, en fait, on avait un gif, une petite vidéo qui apparaissait d'une animation d'une broderie en question. Donc c'était un peu une collaboration entre ces deux artistes qui étaient en production. On avait également Yasmine Benjouad, qui a réalisé plein d'œuvres à l'encre. Vraiment trois très belles œuvres, très détaillées, en très peu de temps, 2-3 mois. C'était vraiment impressionnant. La productivité et puis l'inspiration qu'elle a eue. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons retours, de gens qui étaient impressionnés de se dire comment est-ce qu'elle a fait, quoi.
Ouais, non, mais il y avait une vraie problématique pour nous et pour les équipes, surtout la team artiste, du coup, qui s'occupe du suivi des artistes, de qu'est-ce que les gens sont capables de produire, comment nous on l'insère aussi dans le thème. Donc il y avait cette volonté-là d'accompagner forcément chaque artiste et aussi d'avoir son ressenti, parce qu'on voulait forcément pas dénaturer son univers. On voulait que toutes les œuvres viennent de lui ou d'elle, mais en même temps, il fallait que ça s'insère dans les salles. Et donc, on avait cette problématique-là, une espèce de dualité qui se créait, on veut les influencer, mais d'un autre côté, on veut que ce soit 100% eux, parce qu'on ne veut pas que ce soit en fait, les œuvres maîtres, on veut que ce soit les œuvres de l'artiste. Et donc c'était hyper important pour nous de laisser cette liberté à l'artiste d'exercer sa volonté sur l'œuvre.
Et comment vous avez fait pour trouver les différents artistes qui étaient exposés ?
Donc on a lancé vers fin juillet, début août, des appels à candidature. Donc on a lancé sur Facebook, sur Insta, on a aussi passé des mails sur le fil de l'UTC Alumni. Et donc on a aussi essayé de faire un peu de bouche à oreille. Voilà, donc on a passé un questionnaire et puis on a eu pas mal de retours, du coup 40 candidatures.
Est-ce que vous avez à peu près une estimation du nombre de visiteurs que vous avez eu ?
Oui, si mes souvenirs sont bons, on a eu à peu près 700 visiteurs pendant les 3 semaines.
C'était exclusivement des UTCiens ?
Non, pas exclusivement des UTCiens. Bien sûr, il y a une grande majorité parce que le showroom, on est obligé de rentrer avec sa carte étudiante. Mais je sais qu'il y a eu des personnes qui ont été invitées à l'extérieur par d'autres UTCiens et... On a eu du coup pas mal de monde, aussi différents. On a eu des adultes, des étudiants, voilà.
Et quelle est la suite pour vous ? Une autre exposition ?
On va se pencher sur une nouvelle exposition. D'ailleurs, on est en recherche de nouveaux membres. Le but, c'est effectivement de créer une deuxième, enfin de capitaliser sur l'expérience de la première pour créer une deuxième exposition. Du coup, on va pas encore dévoiler les dates, mais prochain semestre possiblement. Et donc le but, c'est voilà, de voir les choses encore un peu plus grand, peut-être d'ouvrir aussi à de nouveaux publics, de nouveaux artistes. Donc il y aura, ce sera à peu près le même processus de sélection des artistes. Donc ça va probablement être un Google Forms qui va passer sur Facebook et tous nos réseaux.
Probablement en janvier.
Voilà. La différence que cette fois-ci, on est plus médiatisé, parce que c'est vrai qu'en juillet dernier, on venait de créer l'association, donc forcément, personne ne nous connaissait. Donc... c'est plutôt bien passé, vu qu'on a eu pas mal de candidatures, mais je pense qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout au courant qu'on existait, alors que vu que là, on vient de réaliser la première exposition, je pense qu'on va avoir de belles surprises, de gens qui auraient bien aimé participer à la première, du moins, et qui vont se rattraper pour la prochaine, j'espère. Et puis, on va essayer de s'ouvrir aussi à plus d'artistes de l'extérieur, on en discutera, mais c'est aussi une des ambitions, au moins d'ouvrir aussi aux spectateurs extérieurs, pour essayer de rendre l'exposition plus accessible, et pas seulement aux UTCiens.
Ouais. Et puis le but, c'est aussi d'organiser des beaux événements, parce que là, c'est vrai qu'on a fait un vernissage avec pas mal d'assos UTC, et puis on a eu quasiment tous les mercredis, pendant la durée de l'expo, des événements avec des assos musicales. Donc on a eu Strava,
et puis aussi As de Cœur. Donc Strava, ouais. Ils ont fait un concert, et avec As de Cœur, on a fait un karaoké.
Ouais, donc le but, c'était aussi de regrouper les gens autour de la musique. Donc on les mettait dans une salle un peu à part où il y avait un concert, et on organisait les visites guidées en parallèle. Donc on avait des groupes qui partaient une demi-heure dans le showroom pour qu'on leur explique. Et du coup, c'était un format qui a vachement plu parce que il y avait d'un côté un événement UTC1 et d'un côté la présentation de Met. Donc c'est aussi ce qui nous a aidé à nous faire connaître, forcément.
Et quels sont les retours que vous avez eus suite à cette première exposition ?
Généralement, des bravos, des félicitations. on a touché pas mal de personnes aussi, ils ont adoré.
Et pas mal de surprises aussi au niveau des alumni, parce qu'en fait on avait eu un samedi, c'était la journée des alumni à l'UTC, je pense spécial 50 ans, et donc on faisait partie d'une des activités, on va dire, de leur journée, et on a eu de très bons retours, même des alumni des plus vieilles générations, qui étaient très satisfaits d'avoir vu, enfin de voir une expo comme ça réalisée par des étudiants, et de voir aussi leurs collègues alumni réaliser de si belles œuvres. Je pense que ça a pu en inspirer certains. Je sais pas.
Et puis aussi le fait d'avoir monté une expo en si peu de temps, ça a impressionné surtout pas mal de personnes qui travaillaient au centre d'innovation, et quand ils ont vu le résultat pour la première fois, ils étaient bouche bée.
Je pense que le personnel en tout cas du bâtiment, parce que le showroom est quand même rarement utilisé dans le centre d'innovation, c'est souvent juste un lieu pour des buffets, etc. Donc là, de voir une vraie utilité, on va dire, je vais pas critiquer. Mais je pense qu'effectivement, ça leur changeait. Et puis, il y avait, enfin, je me souviens de quelques gens du personnel qui passaient régulièrement visiter, etc. Je pense que ça leur a fait bien plaisir de voir un peu plus de dynamique dans leur bâtiment aussi.
Même pendant le montage et le démontage, parce que du coup, on a tout fait en palettes qui ont été louées. Et donc, on avait pas mal de temps de montage et de démontage à prendre en compte, parce que du coup, on a créé les murs à partir de ces palettes. Donc c'était un gros travail, et ils passaient, même les électriciens et tout étaient super sympas. Donc ils étaient tous contents de voir un beau projet qui s'organisait comme ça dans les locaux de l'UTC, effectivement, où il n'y a pas grand chose au final.
Surtout, je pense, dans le centre de recherche, dans tout ce pôle-là qui, je pense, est quand même moins en contact avec les étudiants. Enfin, il y a quelques ateliers de formulute, etc. Mais je pense qu'il y a rarement des événements qui se déroulent là-bas. Donc je pense que c'était un petit changement par rapport à d'habitude, au moins pour le personnel de l'UTC. Je pense que pour les étudiants, je pense que le petit retour qu'on aurait pu avoir, c'est un peu pénible d'y aller parce que forcément, c'est pas ABF. Mais bon, on avait la chance d'avoir une belle salle, donc voilà.
Maxime, tu as commencé à en parler tout à l'heure de la difficulté d'accompagner les différents artistes, mais en même temps en s'assurant que ça reste authentique. Est-ce qu'il y a d'autres challenges un peu comme ça que vous avez rencontrés ?
Monter les palettes.
Le montage, c'était quand même une sacrée expérience. On a pas mal de membres de l'asso qui ont été hyper investis, donc c'était super cool. Sinon, en termes de difficultés, moi je peux parler en termes de médiation. Au niveau de l'écriture des cartels, donc les cartels, c'est les petits textes qui accompagnent les œuvres. Le but, c'était d'être très très clair et en même temps proposer une vraie interprétation des œuvres. Donc effectivement, ça a été un challenge parce qu'il ne faut pas qu'on soit trop dans la poésie, mais il ne faut pas qu'on soit trop terre à terre non plus. Donc ça nous a demandé pas mal de temps quand même.
Ouais, c'est ça. En fait, on voulait rendre l'expo accessible avant tout, parce que forcément, le public UTC1, c'est pas forcément le public qui va souvent dans des musées, dans des expositions, etc. Donc, le but, c'était de rendre vraiment l'art accessible, parce que souvent, quand on va dans un musée, dans une expo, les écritures, enfin les explications, elles font un peu hautaines, beaucoup d'adjectifs compliqués, on comprend pas grand-chose. Donc, on essaye au plus de rendre les œuvres accessibles tout en essayant vraiment de raconter le point de vue des artistes, leur vision des choses, surtout en relation avec notre thème. Donc j'espère qu'on y est bien arrivé. En tout cas, on a eu des bons retours, donc ça faisait plaisir.
Ouais. Et puis toujours en rapport avec la technique, on a eu pas mal de petits soucis au niveau des normes de sécurité que forcément on connaissait pas parce que c'était la première édition. Donc on a dû s'adapter tout ce qui est schéma de parcours, pas mal de contraintes là-dessus, normes anti-feu aussi. Donc c'est vrai qu'il y a eu un gros travail de technique et même de scéno, du coup, l'organisation de l'espace en général. Il fallait réfléchir aussi à la répartition des artistes, forcément. C'est des choses qui ont beaucoup bougé, qui ont évolué avec le temps. Mais au final, on est très très content du résultat.
Et ça ne fera qu'améliorer les prochaines expositions.
Oui. Normalement, la V2 sera mieux. Donc,
oui, maintenant, on a à peu près les plans, on sait comment ça fonctionne, donc on va aller normalement plus vite.
C'est ça. Oui. On sait quoi faire, on sait qu'est-ce qu'on ne doit pas faire non plus, parce que nous, en médiation, par exemple, on a un peu trop écrit, par exemple, on ne savait pas trop exactement qu'est-ce qu'on devait raconter, qu'est-ce qu'on devait représenter. Forcément, il y avait beaucoup d'artistes, beaucoup d'œuvres qui étaient représentées, donc on ne savait pas si on devait faire une description d'artiste, par exemple, plutôt qu'une description d'œuvre ou inversement. Donc finalement, on a eu des pages et des pages, entre guillemets, jetées à la poubelle parce qu'on ne pouvait pas tout représenter. Parce que si, quand il y a trop d'informations devant les spectateurs, ça peut désintéresser certains. Donc il faut trouver un juste milieu entre une bonne quantité d'explications et pas trop non plus pour ne pas désintéresser.
Ouais. Et pareil du côté de la com. Maintenant, en fait, on sait à peu près à partir de quelle date il faut commencer à faire de la communication sur l'expo, à lancer... On a aussi découvert, par exemple, qu'on pouvait mentionner des comptes pour pouvoir être partagé un peu en plein milieu de l'expo. Mais en tout cas, pour la prochaine fois, maintenant, comme on a les bases, normalement, la communication devrait beaucoup mieux se faire.
Et aussi, par rapport à ce que tu disais, Manuel, je pense que c'est important aussi de laisser aux spectateurs, aux visiteurs, la possibilité d'imaginer aussi un peu l'univers de l'artiste et de se projeter. Et en essayant de tout écrire, on renferme un peu... les différents visiteurs dans un univers qu'on crée nous-mêmes. C'est super intéressant ce que tu disais. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Elisa, comment est-ce qu'on peut se tenir au courant de vos actualités pour la prochaine exposition ?
Alors déjà, vous pouvez suivre notre compte Insta, donc @met.utc. C'est généralement là où on fait le plus gros de la com. Et on fait aussi de la com sur Facebook avec MetUTC, donc Met+UTC, sur UTC Smile et sur notre compte. Et si sur Facebook, c'est plus des informations importantes, alors que sur Insta, il y a des petits plus. On fait des petits posts, des chroniques comme 10 mètres, à quoi ça sert l'art. Et puis comme ça, vous pouvez en apprendre un petit peu plus.
Merci à vous, Elisa, Maxime, Emmanuel, d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez un dernier message ou un petit mot que vous voulez transmettre aux auditeurs et auditrices ?
Si vous trouvez l'asso fun, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est actuellement en train de recruter.
Et si vous voulez venir en tant qu'artiste, et n'hésitez pas à attendre un petit peu. On envoie le formulaire, mais ça arrive très bientôt.
Alors, préparez vos heures et surtout, venez à la prochaine exposition, on vous accueillera volontiers.
Merci et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés aujourd'hui et à très bientôt pour une prochaine émission sur la vie étudiante à l'UTC.